France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui sur le livre de Mgr Georges Rodre, évêque émérite du Mont-Liban, intitulé « Chrétien dans une société plurielle, le témoignage d'un évêque arabe ». Ce livre est paru en 2025 aux éditions du Cerf. Pour parler de cet ouvrage du métropolite Georges Rodre et de sa vision des rapports que doivent avoir les chrétiens entre eux et avec les fidèles des autres religions dans le milieu très pluriel qu'est celui du Moyen-Orient, nous recevons Olga Loskilaam, responsable de l'édition française de cet ouvrage, et Georges Ellage, théologien, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Alors Olga et Georges, bonjour.
Bonjour.
Commençons par présenter quelques mots la vie de Mgr Georges, qui est né en 1923. Il a donc aujourd'hui l'âge vénérable de 102 ans presque. Georges, donc, pour la partie libanaise, j'allais dire, de la vie de Mgr Georges Rodre.
Georges Rodre est né à Tripoli, au nord du Liban, dans un quartier chrétien d'une ville majoritairement musulmane. Et dans sa biographie, il parle de cette rencontre avec l'islam, une rencontre au quotidien, avec ses amis, avec ses voisins. Il est né en 1923, donc 20 ans avant l'indépendance du Liban, dans une société francophone, dans une société en ébullition, où tout était encore possible. Et la construction d'un État, la construction d'une nouvelle société. Il est devenu évêque du Mont-Liban en 1970. Il a servi comme évêque jusqu'en 2018. Pendant son long service, il a survécu à des tentatives de meurtre. Il a survécu à la guerre libanaise. Il était un grand acteur du dialogue, un acteur majeur du dialogue libanais et interreligieux et œcuménique au Liban et au Moyen-Orient.
Et puis évidemment, tout son témoignage confirme ce que vous venez de dire. Alors on va terminer avec la vie. Il y a une partie française, j'allais dire aussi, de sa vie qui nous intéresse particulièrement. Olga.
Oui, puisque Mgr Georges est venu un moment à Paris pour faire ses études de théologie de 1947 à 1952. Il est venu étudier à l'Institut Saint-Serge, Institut de théologie orthodoxe. Et là, il a découvert tout un milieu, le milieu de l'émigration russe, qui était finalement très proche de la mentalité que lui avait connue au Liban avec le mouvement de jeunesse orthodoxe, ce mouvement de renouveau de l'Église orthodoxe au Liban et en Syrie que Mgr Georges a contribué à impulser. Et en découvrant les gens de l'immigration russe à Paris, il s'est vraiment senti une communauté d'esprit avec ces personnes et un ressourcement commun chez les mêmes théologiens et une même vision de l'orthodoxie. Donc je crois que cet épisode parisien l'a beaucoup inspiré. Et ensuite, il a gardé des liens très forts, notamment avec le père Pierre Struve, avec lequel il était très proche. Et ça a été donc une très grande amitié qui a duré très longtemps.
Et il était donc tout à fait francophone et francophile. Et on a pu s'en apercevoir très souvent lors de ses visites à Paris. Moi, je l'ai connu après cette période. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de très engagé qui connaissait tout le monde à Paris. On avait l'impression que c'était vraiment sa patrie quand il venait ici. Il avait une grande familiarité avec les gens d'ici.
Oui, c'était un milieu dans lequel il était tout à fait à l'aise. Il faisait vraiment le pont, je dirais, entre le Moyen-Orient et le milieu orthodoxe francophone.
Très bien, alors on va parler un tout petit peu de ce livre qui vient de paraître, donc « Chrétien dans une société plurielle ». On voit déjà avec le titre qu'on a affaire à quelqu'un qui se trouve face aux autres religions et qui s'y connaît très bien. Alors Olga, vous êtes occupée de cette édition française. Comment avez-vous, vous ou les autres, fait le choix des textes de Mgr Rodre qu'il y a dedans? Et quel a été le critère pour les choisir?
Mgr Georges est un auteur qui est très prolixe en arabe. Il a beaucoup écrit. Il existait jusqu'à présent seulement deux livres en français. Et si je disais Les chemins de l'enfance, qui est une sorte d'autobiographie spirituelle, qui était sortie en 1997. Et un premier recueil de textes de Mgr Georges, intitulé L'appel de l'esprit, qui était paru en 2001 aux éditions du Cerf. Et donc, il y avait vraiment, je pense, un besoin de rassembler des nouveaux textes pour faire un nouveau recueil thématique. Et donc là, on est allé chercher des textes assez variés en termes notamment d'époque. Le plus ancien, je crois, c'est 1971 jusqu'en 2014. Donc, un contexte qui a beaucoup changé, beaucoup évolué, notamment au Moyen-Orient. Mais le fil rouge, je dirais, de ces textes, c'est vraiment la cohérence de la pensée de Mgr Georges autour de cette question centrale du dialogue. C'est-à-dire que vraiment, les textes répondent chacun à leur manière à cette question de comment vivre sa foi aujourd'hui dans le dialogue avec des croyants qui n'ont pas les mêmes convictions, et notamment dans des situations de violence, de guerre, telles que Mgr Georges a pu les connaître au Moyen-Orient. Donc c'était ça un peu le fil conducteur de base qui a présidé à la sélection des textes.
Est-ce que vous trouvez que sa pensée a évolué au cours des années? Parce qu'évidemment, il y a des textes qui ont été publiés pour la première fois il y a un moment, et puis jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à la...
Alors, il y a une dimension contextuelle de certains textes où on sent affleurer une certaine situation, notamment politique, mais aussi religieuse, notamment en ce qui concerne le dialogue avec les catholiques. Mais je dirais que sa pensée, elle a une très grande cohérence. On sent vraiment qu'il est habité en profondeur par cette nécessité du dialogue, pas simplement parce que c'est une mode ou parce que c'est quelque chose de politique. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui et il garde cette cohérence très forte d'un texte à l'autre.
Merci. Alors, on va parler maintenant de l'actualité de ce livre qui est grande. Évidemment, on a affaire à quelqu'un qui est né au Moyen-Orient. Ils sont déjà minoritaires. Il a des familles chrétiennes très importantes, nombreuses, mais pas tellement de fidèles dans chacune d'elles. Et puis, évidemment, ils se trouvent face à d'autres religions et une région du monde, comme nous savons, très agitée. Alors, il y a ce pluralisme religieux pour lequel plaide Mgr Khodr, en tout cas le recevoir, l'accepter et pouvoir parler avec les autres, du Moyen-Orient, mais il y a également un peu la même chose en Occident, puisque là aussi, je dirais, les chrétiens orthodoxes, en tout cas qu'il est, sont minoritaires. Alors, quel est le rapprochement de ça et comment il aborde cette question? Georges Elage?
Il est nécessaire de rappeler que Georges Khodr est un des pionniers du renouveau théologique, patristique, biblique au Moyen-Orient, dans l'espace antiochien. Et dès 1940-42, il a invité ses pères, ses amis, à se ressourcer dans les lectures patristiques. Ce point est très important parce que la théologie du dialogue de Mgr Georges Khodr s'appuie sur la pensée des pères de l'Église, et je cite surtout saint Justin, martyr, avec toute la notion du logos spermaticos, ce sont les semences du Verbe, les pères de l'Église qui trouvent que toute beauté, toute vérité et toute bonté vient des graines du logos, viennent des semences du Verbe. Et Mgr Georges s'est appuyé sur cette pensée patristique pour aller chercher la beauté, la vérité et la bonté du Christ qui est semé dans toute culture et même toute religion. Il ose dans un de ses textes dans les années 70, un texte de Addis Abeba à la rencontre du Conseil œcuménique des Églises, dire: nous sommes invités à réveiller le Christ endormi dans les religions. Et pour rencontrer le Christ dans d'autres religions, il faut déjà le rencontrer chez soi. C'est une possibilité alors qui s'applique à la fois au Moyen-Orient, mais dans des sociétés plurielles comme en Europe.
C'est en effet un témoignage chrétien très, très profond, très fort. Mais je vais poser une question un peu provocatrice. Ce n'est pas un tout petit peu surréaliste aujourd'hui, avec la situation que l'on connaît, de penser comme ça, même si on admire profondément ce genre? Olga, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense qu'il faut, au contraire, affirmer que cette possibilité du dialogue, de découvrir des semences communes dans les différentes religions, dans les différentes façons de penser, plus que jamais, même à contre-temps, il faut l'affirmer. Comme l'a fait Mgr Georges au fil des époques, même si aujourd'hui on est dans une situation de crise, de conflit qui sont majeurs, je pense qu'on n'a pas d'autre solution, que, en tout cas pour arriver à la paix, que d'être dans ce dialogue où on prend vraiment l'autre pour ce qu'il est et on va s'intéresser à l'autre, on va essayer de découvrir l'autre. Et je crois que une des différences peut-être avec la façon dont ici on vit le pluralisme, c'est qu'on est dans une société laïque où quelque part on nous demande de gommer nos éléments religieux. que ce soit de la sphère strictement privée. Et le contre-coup de ça, je dirais, c'est une forme de, bah de, d'exacerbation d'identité, d'identitarisme religieux. Les religions vont d'autant plus être revendicatrices. Alors que la méthode de Monseigneur Georges, si je puis dire, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre dans sa différence, être dans le dialogue actif, dans la rencontre, dans l'ouverture. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours à expérimenter plus profondément. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer d'y croire.
Et croire au dialogue, parce que plusieurs personnes pensent que dialogue égale compromission. Et donc, il faut éviter le dialogue, parce que si on dialogue, on va forcément être perdant. C'est une idée qui revient souvent. Georges ?
Je pense que l'opposé du dialogue, c'est la violence. Et Monseigneur Georges n'était pas tombé dans l'angélisme. C'est un pasteur qui a participé à la pastorale des victimes de la guerre civile. Donc il connaît très bien les réalités de la violence, de la guerre, de la souffrance. Et le dialogue n'est pas une sorte de fuite en avant, le dialogue était nécessaire pour vivre et survivre des deux côtés. Le dialogue est une position courageuse, mais le dialogue est aussi un dialogue en vérité. Alexis Chrysostalis, vous posiez la question sur l'évolution de la pensée de Monseigneur Georges Schroeder. Il est clair que dans ses textes, dans les années 60, 70, il était beaucoup plus optimiste. Et avec les années 80 et 90, il y avait une petite déception parce que les interlocuteurs dans le dialogue islamo-chrétien ont été malheureusement assassinés dans ce pays. C'est un dialogue menacé par la violence, mais il a toujours préféré être du côté des victimes, des crucifiés, que des bourreaux.
C'est le moment de la pause en prière et en église. Alors, c'est un extrait de la liturgie orthodoxe de Pâques par les chœurs des diocèses de Beyrouth, Tripoli et du Mont-Liban et un concert de musique byzantine en fait, chanté en arabe, enregistré le 19 avril 2004 en la cathédrale Saint-Georges de Beyrouth. De liturgie de Pâques par les chœurs des diocèses de Beyrouth, de Tripoli et du Mont-Liban. Nous revenons à notre conversation avec Olga Loskilam et Georges Hellage sur le livre de Mgr Georges Schroeder, « Chrétien dans une société plurielle ». Alors, en lisant le livre, évidemment, et on le fait autant déjà dès le départ, on tombe sur un chapitre et il est assez long, l'idée revient souvent. Il insiste, donc il faut croire beaucoup sur l'idée que l'Église et la nation, c'est pas la même chose. Et cet amalgame est souvent fait dans le monde orthodoxe, nous le savons. et que donc il ne faut pas identifier l'Église à la nation. Alors qu'en est-il au fait, Georges ?
Le siège d'Antioche est déjà un siège apostolique qui dépasse les frontières des États-nations qui ont été inventées au XIXe ou XXe siècle. Et cette réalité est ancrée dans la pensée des chrétiens dans cette région du monde. Monseigneur Georges nous a toujours rappelé que la famille de Mansour bin Sajoun, Jean Damascène, était à la fois au service de l'État sans qu'elle renie sa foi en Jésus-Christ. Et être chrétien et citoyen ne s'oppose pas. Pour Monseigneur Georges, une des allergies si je puis utiliser le mot, c'était la confusion entre le royaume des cieux et les États-nations. Il nous rappelait toujours que le projet de Dieu dépasser les frontières, que le projet de Dieu s'adressait à chacun et à chacune. Et dans un pays comme le Liban, où la guerre civile a opposé des gens qui se disaient phéniciens, d'autres qui se disaient arabes, d'autres qui se disaient grecs ou arméniens, il disait toujours « Nous sommes les apôtres de Jésus-Christ aux arabes, aux arméniens, aux français, aux phéniciens, à tout le monde. » Donc Jésus-Christ s'adresse à chaque culture et à chaque personne. D'où l'impossibilité d'associer ou d'identifier ou de confondre un projet national avec l'Église. Il allait même jusqu'à critiquer les églises sœurs, les églises orthodoxes, qui fêtaient les fêtes de la terre de tel pays ou de tel pays. Dans le calendrier antiochien, Monseigneur Georges disait « Les saints sont les citoyens du royaume des cieux. Ils ne peuvent pas être les saints d'une terre telle ou d'une telle terre. »
C'est lié aussi un peu à sa propre histoire. Il vient d'un pays justement très pluriel, d'une région du monde très plurielle. Et c'est plus, je dirais quand même que c'est plus facile à dire que lorsqu'on est dans un pays où pratiquement tout le monde appartient à la même religion. Et c'est très difficile. Olga ?
Oui, je crois que derrière cette lutte de Monseigneur Georges contre la confusion entre l'identité culturelle et la foi, il y a bien sûr tout ce que lui peut vivre au Liban, tout ce qu'il a pu voir dans le monde orthodoxe, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une réalité dramatique, ce nationalisme ecclésial. Et à la racine de ça, je crois qu'il exprime aussi le fait qu'il se trouve une certaine, finalement, posture spirituelle qui est un désir de puissance, de toute puissance, de se sentir fort, de se sentir une majorité. Et ça, il l'exprime bien, notamment dans un texte très court intitulé « La majorité et la minorité », où il fait justement l'éloge de la faiblesse, de l'abaissement, de la minorité comme étant la vraie façon de vivre en Christ. Voilà ce qu'il écrit. « Certaines personnes existent si elles sont oubliées, et la plupart des gens existent si ils sont honorés, complimentés et soutenus. Certains craignent Dieu quand la plupart suscitent la crainte. Certains exercent le pouvoir de l'amour, alors que la plupart exercent le pouvoir de la force. » Certains sont riches par leur pauvreté et la plupart sont pauvres par leur richesse. Certains sont convaincus que leur éloignement est un rapprochement de Dieu et la plupart pensent que leur apparition leur permet d'exister.
En effet, c'est un très beau texte et qui enseigne vraiment. Alors, il ne reste que quelques minutes pour terminer et donc c'est de son héritage que je voudrais que l'on parle. J'ai rappelé, Monseigneur Georges a actuellement presque 102 ans, donc il est retiré de l'activité ecclésiale et pastorale, mais il laisse beaucoup de choses. Alors on va essayer, en quelques minutes, très peu de temps, de résumer cette œuvre colossale. Georges ?
Il a déjà laissé au patriarcat d'Antioche le mouvement de la jeunesse orthodoxe.
MJO.
MJO. C'est à la fois un mouvement de renouveau, mais c'est un mouvement de responsabilisation. Il a responsabilisé chacun et chacune des orthodoxes en rappelant que nous sommes tous à l'œuvre, que l'Église n'est pas une affaire de patriarche ou d'évêque. L'Église est le rassemblement de tous. Ça, c'est un de ses premiers cadeaux à l'Église. Le deuxième, son activité et son engagement, même avant le mouvement œcuménique, était un élargissement. Il a élargi les horizons des Antiochiens vers les pères de l'Église, à la fois grecs, mais aussi syriaques et autres. Il a donné le goût, même aux autres chrétiens au Moyen-Orient, d'aller chercher et lire les pères, qu'ils soient coptes, syriaques ou grecs.
Et je dirais que son héritage, il est beaucoup plus large que finalement au Moyen-Orient, il rayonne beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'avec un tel recueil, on peut vraiment rentrer dans sa pensée. Et ce qui me fait dire ça, c'est notamment, j'ai un ami orthodoxe français qui m'a écrit il y a quelques jours, et qui m'a écrit en disant « J'étais sur le point de quitter l'Église quand j'ai eu entre les mains ce livre de Mgr Georges, et ça m'a donné de l'espérance. Ça m'a permis de voir que notre Église, elle est pas, c'est pas cette vision étriquée, rigoriste qu'on en a le plus souvent aujourd'hui, mais c'est un lieu de vie, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu où souffle l'esprit. Et ça, je pense que Mgr Georges, il nous donne cet élan-là pour continuer à croire en l'Église aujourd'hui.
Alors, malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais je pense que cette idée et ce témoignage de Mgr Georges Choadre est une leçon pour tous, évidemment dans la famille orthodoxe, mais beaucoup plus loin, comme vous dites, et il a, par sa présence et son activité, enseigné beaucoup de monde autour de lui. Alors il faut lire ce livre, qui est un très beau livre. Olga Loski, Georges Elage, merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui vient de paraître, « Chrétien dans une société plurielle », CERF 2025. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son François Saint-Jour. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solael au rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.
لم يعلموا